vous invite à prendre vos notes de cours à la page 27, au point numéro 4. On est toujours dans la période qu'on appelle la période judéenne primitive. C'est la dernière période de la première année du ministère public de Christ, c'est-à-dire l'année d'obscurité. Donc, on a parlé des premiers ministères durant cette période-là, donc qui dure à peu près 8 mois. Donc, en ayant la carte là à portée de main, vous allez pouvoir continuer à remplir les espaces. Déjà, vous pouvez inscrire ce que vous voyez comme titre numéro 4 en haut de la page 27, « Prédication et enseignement ». Donc, vous pouvez écrire ça au point 3, dans le fond, en bas tout à fait de la colonne où c'est marqué 8 mois. Vous descendez, vous avez 3 lignes avec des parenthèses toujours. Et puis donc, sur la ligne 3, vous écrivez « Prédication, enseignement ». Moi, en fait, sur la carte finale, il va simplement être écrit « P-E-R-D » ou « P-E-R-E-D. » puis tirer enseignement ou quelque chose comme ça, une abréviation dans le fond qui vous permette d'écrire ça, parce que j'admets que c'est assez long comme titre pour entrer là. Et entre parenthèses, dans le fond, vous allez pouvoir inscrire ce que nous avons au point A et B sur la page 27, c'est-à-dire au point A, nous allons voir brièvement les prédications, enseignements du Seigneur en Judée. Donc, vous pouvez déjà inscrire Judée à côté du point A. Et à côté de B, c'est en Samarie. Donc, au point B, Samarie. Vous pouvez l'écrire tout de suite, hein, ça va être fait. Vous pouvez le faire aussi sur la carte, à côté de la ligne 3, prédication, enseignement, écrire peut-être en abrégé, puis Judée, Samarie, dans la parenthèse, en écrivant peut-être J, slash S. Comment on dit ça, slash en français? Barre oblique, voilà. OK, alors au point A, justement, les prédications, enseignements. En fait, on note que dans la Judée, c'est surtout les prédications et l'enseignement que le Seigneur a donné là. Moins de miracles qui sont faits dans cette région, plutôt en Galilée, c'est vrai, mais beaucoup moins en Judée. C'est surtout des prédications et de l'enseignement que le Seigneur fait dans la Judée. Alors, avant, on lit dans vos notes de cours, avant de quitter la Judée pour la Galilée, où le Seigneur va exercer un très long ministère, hein, c'est près de 20 mois au total, Jésus a pris du temps pour prêcher et enseigner les multitudes dans les alentours de la Judée. Et puis, si vous avez eu le temps ou l'occasion de lire, ou vous le ferez plus tard, ça se trouve être la section de Jean 3, 22 jusqu'à Jean 4, verset 3. Et on lit toujours dans les notes de cours, pendant que Jésus prêche en Judée, surtout dans les régions rurales, Jean-Baptiste va rendre tout un témoignage au Seigneur Jésus. Et là, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire ensemble Jean 3, les versets 26 à 36. Jean chapitre 3, verset 26. Un petit peu difficile à déterminer qui parle dans ce chapitre 3, comment découper le texte exactement, même dans un sens, Jean 3, 16, c'est pas certain à 100% qui l'a dit. Est-ce que c'est le Seigneur qui a dit ça? Est-ce que c'est un commentaire éditorial de Jean en tant que celui qui a rédigé l'Évangile? C'est pas facile de le savoir avec une certitude absolue, mais en bout de ligne, ce qui est important, c'est le texte qui est sous nos yeux, puis on apprécie vraiment que le Seigneur nous ait donné un tel texte. Alors, si nous lisons ensemble dans l'Évangile selon Jean, on part au chapitre 3, verset 26, et on va se rendre jusqu'à la fin. « Et ils vinrent à Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as toi-même rendu témoignage, voilà, il baptise et tous viennent à lui. » Jean répondit et dit, « Un homme ne peut rien recevoir à moins qu'il ne lui soit donné du ciel. » Vous-même, vous me rendez témoignage que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui assiste et l'entend, est tout réjoui à cause de la voix de l'époux. Cette joie donc, qui est la mienne, est accomplie. Il faut que lui croisse plutôt et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut, est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et de ce qu'il a vu et entendu, de cela il rend témoignage, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est vrai. car celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure ou par mesure. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quel beau texte dans ce passage que nous venons de lire, des vérités fondamentales autour du salut, autour de la doctrine du salut. Et deux questions peuvent être soulevées en lisant un tel passage ici. Premièrement, où s'arrête le témoignage de Jean-Baptiste? C'est difficile à déterminer, comme l'avons dit en introduction, mais possiblement que c'est au verset 30 que se terminent les paroles de Jean-Baptiste lui-même. C'est-à-dire, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Cette parole-là, elle peut être appliquée dans tellement de contextes différents, d'un point de vue pratique, même dans nos vies encore aujourd'hui. Mais littéralement, ce que je crois que Jean-Baptiste voulait dire, c'est simplement qu'il était temps que lui disparaisse dans son ministère qui était en fait qui tirait à sa fin, qui était terminé pratiquement, et que Jésus prenne toute la place. Donc, dans un sens contextuel, immédiat, je crois que c'est ça qu'il veut dire par cette parole du verset 30. Il faut que je disparaisse graduellement et puis que le Seigneur Jésus prenne place, parce qu'en fin de compte, Jean-Baptiste était précurseur du Messie. Il était là pour préparer la voie à sa venue. Et donc, maintenant que c'était fait, il pouvait disparaître de la scène et puis laisser toute la place au Seigneur Jésus-Christ. Et dans un sens spirituel, combien c'est vrai cette parole-là. Et puis, je pense qu'on a souvent appliqué comme ça ce texte en disant « Il faut que le moi disparaisse de plus en plus pour que Jésus prenne de plus en plus de place dans nos vies. » C'est absolument vrai ça. Il n'y a aucun doute, mais c'est bon de regarder le contexte de la déclaration elle-même. Alors, il est possible qu'à partir du verset 31, ce soit plutôt sous la plume de Jean en tant que rédacteur de cet évangile que nous devons lire ce texte-là comme une espèce de commentaire éditorial de fin de cette entrevue entre Jésus et Nicodème, ces commentaires finaux de Jean-Baptiste. Et là, c'est comme si Jean lui-même mettait sa touche finale à toute cette discussion, à ce dialogue formidable que nous avons dans ce passage. Et la deuxième question qui me vient à l'esprit en lisant un tel texte, c'est « Avez-vous remarqué de quelle manière Jésus est identifié dans ce passage-là? » Il est identifié comme étant le Christ, très clairement, comme étant l'époux, et puis évidemment à ce point-ci de la révélation progressive de Dieu, on ne sait pas encore beaucoup de choses au sujet de Christ en tant qu'époux, dont nous, l'Église, sommes l'épouse, et les Juifs, d'une manière globale, sont considérés comme étant l'ami de l'épouse et de l'époux, mais voilà, jusqu'à ce point-ci, il est clairement identifié comme étant l'époux, et ensuite celui qui vient d'en haut aussi, avec le même adverbe qu'on avait vu dans la discussion avec Nicodème quand il est dit « il faut qu'il naisse de nouveau », c'est-à-dire d'en haut, une naissance produite par Dieu. Alors Jésus est celui qui vient d'en haut, dit d'une autre manière, mais c'est la même vérité, il vient du ciel. Et encore aussi, c'est lui que Dieu a envoyé, et même il est clairement présenté comme étant le Fils de Dieu dans ce passage-là. Donc, c'est quand même tout un chapitre, le chapitre 3 de Jean, qui nous révèle Jésus-Christ d'une façon assez impressionnante. Ensuite, nous sommes au point B, la page suivante, où nous voyons dans la suite du ministère public du Seigneur, bien sûr, tout le temps dans une vision chronologique, un développement chronologique de son ministère. Il se dirige vers la Galilée, mais va le faire en passant par la Samarie, là où il va aussi prêcher et enseigner. Donc, Jésus quitte la Judée, un ministère surtout centralisé autour de la prédication et enseignement, remonte vers la Galilée, où il se prépare à exercer presque 2 ans de ministère public là-bas, on a dit à peu près 20 mois, et puis le Seigneur se dirige par là en passant par la Samarie. Voilà pourquoi nous lisons dans vos notes de cours, « Jésus a ensuite quitté la Judée pour la Galilée. Il y avait des murmures qui commençaient à faire leur apparition parmi les chefs. » On parle bien sûr des chefs religieux juifs. « De plus, Hérode le tétrarque venait juste d'emprisonner Jean-Baptiste. » Et c'est un peu aussi le déclencheur ou l'élément ou l'événement déclencheur du mouvement de Jésus depuis la Judée jusqu'à qu'à la Galilée, en passant par la Samarie, c'est-à-dire l'arrestation et l'emprisonnement de Jean-Baptiste. On lit toujours dans les notes de cours que la route la plus directe pour aller en Galilée passait par la Samarie. Mais les Juifs évitaient souvent de passer par là, ils allaient plutôt contourner par la vallée du Jourdain qui est un petit peu plus à l'est, ce qui aussi augmentait le nombre de kilomètres, évidemment, pour se rendre en Galilée. Mais Jésus, lui, il n'allait pas faire ce détour, il devait passer par la Samarie et nous comprenons par là qu'il devait passer par là parce qu'il avait des gens à rencontrer, dont bien sûr la femme samaritaine. Mais beaucoup d'autres samaritains aussi. Restons dans l'évangile de Jean et regardons brièvement le chapitre 4, juste après la section qui nous a préoccupés avant, et puis lisons les versets 39 à 42. Et puis, notez la progression dans le cheminement spirituel de ces samaritains-là. Donc, Jean, chapitre 4, verset 39. Or, plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu témoignage. Et elle a dit, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Donc, elle avait vu en lui un prophète lorsque Jésus a révélé son passé. Et puis, donc, elle se présente comme ça devant les Samaritains en disant, « Mais il m'a tout dit, il a vu ma vie, quoi, il sait tout de moi. » Et sur ce témoignage, des Samaritains ont cru. Nous lisons par la suite au verset 40, « Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, il le priait de demeurer avec eux et il demeura là 2 jours. » C'est un contraste extraordinaire avec ce qui se faisait dans la culture à l'époque où on lit clairement dans le texte de la parole de Dieu qu'il n'y avait pas de relation entre Juifs et Samaritains parce que les Juifs méprisaient les Samaritains, qu'ils considéraient comme des demi-Juifs ou si on peut dire des gens de mélange culturel inacceptable. Alors, c'était étonnant que Jésus ait parlé avec cette femme, mais aussi que maintenant, il passe du temps avec des Samaritains. Au verset 41, c'est dit, « Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole. » À cause de sa parole. Et que j'aime ça quand c'est dit comme ça. Ils ont cru à cause de sa parole. Il y a une grande différence dans l'évangile de Jean entre croire à cause de la parole du Seigneur et croire parce qu'on a vu des miracles. Et généralement, ce qu'on comprend bien, c'est que ceux qui croient parce qu'ils voient des miracles, ils n'ont pas une foi solide, et bref, ce n'est même pas une foi qui sauve, très souvent. Tandis que ceux qui croient sa parole, qui croient ce que Jésus dit, ça fait toute la différence du monde. Et c'est remarquable dans le cheminement des Samaritains, et aussi dans tout ce que Jean nous présente dans cet évangile-là, à cet égard. Et il disait à la femme au verset 42, « Ce n'est plus à cause de ton dire, donc ce qu'elle avait rapporté, que nous croyons, car nous-mêmes nous l'avons entendu et nous connaissons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde. » Wow! Et c'est parce qu'ils ont entendu de leurs propres oreilles le Seigneur prêcher l'Évangile qu'ils croient maintenant, et pas seulement parce que cela leur a été rapporté par quelqu'un. On a besoin, puis on doit encourager les gens à lire la Bible aujourd'hui, à lire l'Évangile, parce que c'est une parole vivante et Dieu peut sauver des gens juste à écouter sa parole ou juste à la lire. Donc, encouragez vos amis, vos parents, tout votre entourage non-croyant à lire l'Écriture ou donnez-leur peut-être l'Évangile de Jean ou selon Luc, peu importe, pour qu'ils puissent avoir accès à la parole de Dieu. C'est une parole vivante. Voilà, c'est... Je voulais noter vraiment ce développement-là qu'on voit clairement avec les Samaritains. Puis, puisque nous parlons d'eux, pourquoi pas faire une petite note historique, mais une petite note que je vais quand même modifier un tout petit peu ici. Vous pouvez lire au bas de la page 27, « Le royaume d'Israël au nord est tombé aux mains de l'Assyrie en 722 avant Jésus-Christ. La capitale, Samarie, capitale du royaume du nord, a été alors détruite. Certains Israélites ont été emmenés en captivité, probablement la majorité même, tandis que les Assyriens faisaient venir des peuples étrangers dans le pays et assimilaient le reste des Israélites. Les Samaritains de l'époque du Nouveau Testament proviennent de ce mélange d'Hébreux et de peuples étrangers. Dans le fond, ce qui est vraiment important de réaliser, c'est que la petite note que je voulais faire finalement, elle est déjà dans le texte, j'avais même pas remarqué que j'avais corrigé le texte auparavant, mais c'est que les Assyriens, pardon, ils ont pas pris de leur propre peuple à eux, mais ils ont pris des peuples conquis ailleurs, quoique c'était dans, quand même dans la région de l'Empire assyrien, là, dans le nord de la Mésopotamie, et ils ont amené ou exilé ces gens-là pour les amener à ce mélange culturel, social, religieux avec des Israélites qui en général étaient des cultivateurs ou des gens vraiment du pays. Et puis donc ce mélange-là a créé, en fin de compte, ceux qu'on appelle les Samaritains dans le Nouveau Testament et qui étaient totalement méprisés là, du reste des Juifs qui n'avaient pas de relation avec eux. Si vous voulez le contexte historique du tout début là, des Samaritains tels qu'on en parle dans le Nouveau Testament, vous devez lire dans le deuxième livre des Rois, dans l'Ancien Testament, évidemment, 2 Rois chapitre 17, les versets 24 à 29. Donc 2 Rois 17, 24 à 29. C'est là qu'on trouve l'origine des Samaritains. En terminant cette période, nous allons maintenant inscrire sur la carte l'événement particulier qui a marqué le début de cette période-là, et je pense qu'on peut parler de la purification du temple par le Seigneur. Donc, je ne sais pas si on avait déjà inscrit ça au départ, mais si c'est pas fait, inscrivez-le dans l'espace sous 8 mois. Vous pouvez inscrire là dans ce carré-là si vous voulez. Donc, Jésus purifie le temple, Jean 2, verset 13. Et ça complète la première année de ministère public du Seigneur, l'année d'obscurité. Donc, on vient de terminer la période judéenne primitive. Et avant d'entrer dans la deuxième année de son ministère public, nous allons répondre au petit quiz là, qui suit dans vos notes de cours. Puis déjà, peut-être après, je peux laisser une période de questions s'il y en a quelques-unes. Donc, ça nous dit ceci. Premièrement, la question A, la Pâque était célébrée au début de Nisan dans le calendrier religieux. Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est au milieu du mois. C'est le bon mois, mais c'était pas au début. C'était au milieu du mois de Nisan que c'était célébré. Question B. La période judéenne primitive a duré 6 mois en tout. Et la réponse, c'est faux. C'est 8 mois. Comme on l'a vu sur la carte il y a quelques instants. C. La Pâque juive rappelle la délivrance et la Pâque dans les évangiles rappelle la résurrection. Et la réponse, c'est faux. La Pâque, c'est toujours le sang versé, c'est toujours une référence dans les Écritures, peu importe où on est, dans l'Ancien, dans le Nouveau, une référence à la sortie d'Égypte qui a suivi donc cette plaie où les premiers-nés sont morts et ceux qui ont été épargnés sont ceux qui avaient appliqué le sang tout autour de la porte. Donc, c'est faux. Mais on sait que traditionnellement, on lit beaucoup la Pâque avec la résurrection de Christ. Et le lien le plus près qu'on avait souligné, c'est parce que Jésus est ressuscité pendant le contexte de la fête des pains sans levain qui était liée de très très près elle-même à la fête de Pâques. Ensuite, point D, Jésus a dit qu'il détruirait le temple et le rebâtirait en 3 jours. La réponse, c'est faux. Il a dit « détruisez-le et je le rebâtirai ». C'était pas lui qui avait dit qu'il le détruirait. E. Naître d'eau et d'esprit signifie être baptisé et régénéré. La réponse, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec le baptême. C'est une image de purification spirituelle telle que nous le voyons dans Ézéchiel 36, les versets 25 à 27. F. Au moins 38 rencontres personnelles sont mentionnées dans les évangiles, c'est vrai, au moins 38, c'est assez remarquable de voir le Seigneur passer du temps comme ça avec autant de personnes différentes. G. Hérode a fait emprisonner Jean-Baptiste après l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. La réponse, c'est faux. Parce que, en fin de compte, c'est cette arrestation-là qui a motivé Jésus à se diriger vers la Galilée en passant par la Samarie, là où il a rencontré finalement cette femme-là. H. L'origine des Samaritains remonte à 150 avant Jésus-Christ. Bien, on vient tout juste de le voir, c'est faux parce que c'est en 722 avant Jésus-Christ, lors de la chute du royaume d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, après la division là, du royaume sous Roboam. Au point I, Jésus a dit à la femme samaritaine de ne parler à personne. Faux, il n'a pas donné une telle recommandation, mais c'est vrai que on trouve cela, par exemple, dans d'autres passages, là où le Seigneur doit éviter de se retrouver dans des cohues, par exemple, ou que son ministère soit limité. Ensuite, Jésus plutôt était plus Dieu, puis là, que homme, ça aurait dû être comme, hein, Q-U apostrophe homme. Pardonnez-moi cette faute de français. Donc, Jésus était plus Dieu qu'homme. Et la réponse, c'est faux. Il était pleinement Dieu et pleinement homme, tout à la fois. Très important de comprendre ça et de le reconnaître et d'admettre cet élément fondamental de la personne de Christ. Il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Une vérité qui nous dépasse quand même. OK, avant d'aller à la section de la période galiléenne primitive, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?
Oui, alors il y a une question de Claude Michel. Est-ce aussi à cause de la période des rois que les Samaritains étaient méprisés? Parce que, sauf erreur, aucun roi de Samarie n'a suivi l'Éternel.
Donc, les rois quand on parle des rois de Samarie, on parle des rois du royaume du Nord qui ont régné depuis Samarie, qui était la capitale du royaume du Nord. Mais quand on parle des Samaritains, on parle d'un peuple qui est venu à l'existence après la chute du royaume du Nord. Donc, c'est pas un élément de haine par rapport au Nouveau Testament ou à la haine qu'on voit dans le Nouveau Testament. La haine qu'on voit dans le Nouveau Testament, ou disons le fait qu'ils n'avaient pas de relation ensemble, c'était à la suite de ce mélange culturel, social et religieux entre des Israélites du Royaume du Nord et des populaces qui venaient de peuples conquis par les Assyriens. Voilà. Est-ce que c'est clair comme réponse?
Alors, on laisse Claude Michel nous répondre. Puis, entre-temps, je te pose une autre question. Est-ce qu'on sait si, à l'époque de Jésus, justement, ces Juifs de ces tribus qui avaient été dispersés, une partie était revenue en Palestine?
Oh, ça, c'est une excellente question et c'est un immense débat chez plusieurs théologiens, penseurs, commentateurs bibliques. Plusieurs disent qu'on ne pouvait pas identifier, après l'exil de Babylone, disons, après toute cette période-là où tu as la déportation en Assyrie, l'exil à Babylone, plusieurs suggèrent et supposent que on a perdu l'identité des tribus. Moi, je crois pas ça. Je crois qu'on connaissait pleinement encore de quelle tribu on venait et que ces tribus-là étaient bien identifiées. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, vous pouvez en identifier plusieurs, Naphtali, Aser, entre autres, Benjamin, Judas, évidemment, Lévi. On trouve plusieurs des tribus qui sont clairement identifiées, et c'est pas parce qu'elles ne sont pas toutes identifiées que forcément c'est parce qu'on avait perdu leur identité à travers soit la déportation au Royaume du Nord et puis l'exil du Royaume du Sud à Babylone. Non, je crois que vraiment c'est chaque tribu était encore identifiée, c'est probablement même le cas toujours aujourd'hui. Même si faut admettre que le Nouveau Testament met l'accent sur quelques tribus seulement. Est-ce que ça a du sens?
Merci, oui. Alors, pour le moment, j'ai pas d'autres questions. On reprendra un temps de questions un peu plus tard.
OK, super. Nous sommes à la période galiléenne primitive. Ben, enfin, nous entrons dans la deuxième année du ministère public du Seigneur, l'année de la popularité. Et dans cette section-là, nous allons faire une introduction générale à cette période. Ensuite, nous allons considérer le ministère de Christ d'un point de vue un peu géographique, c'est-à-dire une alternance entre la Galilée, de façon générale, tout autour de la mer de Galilée, si vous voulez, et puis plus près de la mer, à Capernaum. Donc, nous allons considérer le ministère du Seigneur de cette façon-là. Alternance entre la Galilée en général, retour constant à Capernaum. C'était son quartier général, ça, nous allons le voir. Ensuite, la Pâque à Jérusalem. Donc, nous savons que le Seigneur est retourné de temps à autre à Jérusalem, généralement dans un contexte de fête juive majeure. Mais il revenait presque immédiatement après en Galilée pour continuer son ministère là-bas. Et bien sûr, nous terminerons avec un petit quiz. Allons-y pour l'introduction. Nous avons comme verset d'entrée, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ce verset-là, à lui seul, il résume bien pourquoi on appelle cette deuxième année de ministère public l'année de la popularité. On va entendre parler de lui partout, partout, dans tout ce qu'il va faire. C'est pour ça aussi qu'on parle d'une période où Jésus va accomplir des ministères vraiment étendus. Puis tout à l'heure, vous allez l'inscrire quelque part. Dans vos notes de cours, nous lisons ceci. 700 ans avant l'avènement de Christ sur la terre, le prophète Ésaïe avait annoncé d'avance que l'Évangile allait un jour briller sur la Galilée. Vous lirez le texte d'Ésaïe 9, les premiers versets, et vous pourrez comparer aussi avec Matthieu 4, versets 14 à 16. Et cette prophétie s'est accomplie le jour où le Seigneur Jésus est entré en Galilée. Pendant près de 30 ans, Jésus a vécu dans cette région-là, mais en tant que fils de charpentier et charpentier lui-même. Maintenant, il revient en Galilée pour se déclarer le Messie, le Fils de Dieu. Vous pouvez quand même, d'un point de vue humain, vous imaginer le choc de certaines personnes qui n'avaient pas vu ou discerné ce qui était, je pense, l'ensemble des gens, même sa propre famille, n'avaient pas discerné sa véritable identité, mais l'avait probablement vu comme un juif modèle, un enfant juif vraiment modèle, extraordinaire, mais sans plus. Hein. Et puis là, il revient en Galilée, mais en tant que Messie, Fils de Dieu. Waouh, c'est quel choc pour certains. Hein. Même sa famille pensait qu'il était complètement fou, à certaines occasions d'ailleurs, à cause de ça. Vous savez que en reconstruisant l'harmonie des évangiles, c'est-à-dire de manière chronologique le récit des quatre évangiles, on découvre que des Galiléens qui étaient pieux, qui craignaient Dieu, étaient venus de la Galilée à Jérusalem pour la fête de Pâques un peu avant que Jésus lui-même se rende en Galilée. Donc des Galiléens qui avaient quitté le nord descendent au sud. Pour la fête de Pâques, Jésus étant là-bas, Jésus fait des miracles à Jérusalem. Ces Galiléens-là ont assisté à ça. Ils sont repartis en Galilée avec cette vision des choses, puis d'avoir vu le Christ accomplir des œuvres extraordinaires, probablement l'avoir entendu prêcher aussi. Et ça va être une préparation quelque part pour le ministère que Jésus devait lui-même accomplir en Galilée. Donc, le Seigneur a permis que ces Galiléens-là puissent voir Jésus accomplir des œuvres extraordinaires et sont repartis avec cette vision-là en Galilée, ce qui allait vraiment préparer le terrain pour le Seigneur en Galilée. C'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, le verset 45 qu'on lit ça, où il est dit « Quand donc il fut venu en Galilée, les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi allaient à la fête. » Donc, Seigneur est souverain, hein, il contrôle les événements, il a fait en sorte que ces Galiléens-là soient là pour voir ce qu'il avait fait, et ils l'ont reçu une fois arrivé chez eux. Jésus va passer environ 20 mois en tout et partout en Galilée, ce qui est une très longue période, la plus longue bien sûr de son ministère public. Et son ministère dans cette région-là va se diviser en trois périodes. Les deux premières périodes ensemble vont constituer la deuxième année de ministère public, l'année de la popularité, et la troisième période, elle, va inaugurer la dernière année de son ministère public, comme on le verra un petit peu plus tard. Donc, vous pouvez déjà inscrire sur la carte, si vous prenez la carte « La vie de Christ », sous deuxième année popularité, vous avez de l'espace, là, une ligne, en fait deux petits tirets, et inscrivez là-dessus « ministère étendu ». Des ministères étendus qui vont toucher beaucoup de monde différents, d'arrière-plan différents, dans cette immense région de la Galilée. Donc, ministère étendu. Et nous allons diviser cette période-là en deux périodes, toujours des périodes galiléennes, évidemment. Et puis la première période, celle de 4 mois, c'est la période galiléenne primitive. Vous pouvez inscrire ça aussi au-dessus de 4 mois, période galiléenne primitive. Il y aura une période centrale à venir, il y aura aussi une dernière période galiléenne à venir au tout début de la troisième année. Et ça nous permet de reconstruire, on continue notre reconstruction chronologique du ministère de Christ, on le suit géographiquement aussi, partout où il est allé pour exercer ses ministères. Donc, c'est bon de regarder sur la carte que vous avez sous vos yeux déjà pour avoir une espèce d'idée là que où seront accomplis ces ministères. On trouve la Basse Galilée, la Haute Galilée, la région de Tyr et de Sidon dans laquelle le Seigneur Jésus est aussi entré. C'est pas une immense région, mais quand même, il y a beaucoup de kilométrage là-dedans. Là. C'est hallucinant à quel point c'est le voyage, les voyages qu'il pouvait faire dans un court laps de temps à pied. C'est impressionnant. Je pense que j'aurais eu de la peine à les suivre, tout ce monde-là. Surtout avec les sandales de l'époque. Hein. C'était pas des Nike, double confort, Air, je sais pas quoi. Là. C'était impressionnant à quel point ces gens-là voyageaient. On va faire un survol de cette période-là, les 4 premiers mois, d'un point de vue géographique, poursuivre le Seigneur Jésus, et c'est au point 2 de vos notes de cours, page 30. Donc, nous sommes dans l'alternance entre la Galilée, de manière générale, et la ville de Capernaum. Et ça débute à travers la Galilée. Vous pouvez inscrire ça aussi sous la période de 4 mois, descendez la flèche pointillée, vous avez 5 lignes à remplir. Première ligne, on écrit Galilée, puis à côté, entre parenthèses, vous pouvez écrire N-A-Z pour Nazareth ou synagogue S-Y-N, simplement pour nous rappeler que ça va débuter dans la synagogue à Nazareth. C'est là que débute son ministère en Galilée, après une année complète de ministère public écoulé. Ah, des fois, on a l'impression, parce qu'on est dans Luc 4, que, waouh, on est au tout début du ministère public. Non, pas du tout. Il y a une année complète, là, qui est déjà passée, là. Complètement passée. Là, on est dans la deuxième année, on la débute, on va être 4 mois, en fait, beaucoup plus que ça, mais 4 mois pour ce qui concerne la période galiléenne primitive. Et puis, nous allons lire maintenant Luc 4, versets 14 et 15. Vous voulez tourner avec moi là-bas? Luc 4. Versets 14 et 15. Et c'est dit simplement, « Et Jésus s'en retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit par tout le pays d'alentour, et lui-même enseignait dans leur synagogue, étant glorifié par tous. » Voilà pourquoi on appelle ce passage-là une description générale. Ça montre toute l'étendue du ministère du Seigneur Jésus en Galilée, et elle est décrite, cette étendue-là, en 4 expressions. Premièrement, vous remplissez les espaces revêtus de la puissance de l'Esprit. C'est remarquable à quel point les auteurs bibliques ont voulu souligner qu'à chaque étape importante du ministère public de Jésus, le Saint-Esprit était là aussi. C'était vraiment par la puissance de l'Esprit que Jésus allait accomplir ses ministères. Au point 2, donc, sa renommée. Donc, il est question de puissance. Il est question de renommée. Se répandit dans tout le pays d'alentour. Là, c'est large. Je pense qu'on peut inclure toute la Galilée au complet quand il est dit ça. Donc, sa renommée, c'est la deuxième chose à écrire ici. Au point 3, on parle de son ministère dans les synagogues, au pluriel. Donc, là aussi, ça nous démontre l'étendue du ministère du Seigneur dans les synagogues et finalement, l'expression finale, glorifié par tous. Donc, vous inscrivez tous simplement ici. Quelle belle manière de décrire de façon générale le ministère du Seigneur à travers la Galilée. Puis, vous allez voir que c'est un peu une structure qui revient à travers les textes des évangiles. Il y a presque tout le temps une façon d'introduire de manière générale et impressionnante le ministère du Seigneur à chaque endroit d'une façon toute particulière. Aussi, dans cette partie-là, de tout début, à travers la Galilée, il y a eu d'autres événements, bien sûr. Là, c'est résumé dans les 2 versets qu'on a lus. Mais j'ai pas mis tout ce qu'il y avait, bien sûr, mais quelques passages simplement, ou quelques événements que j'ai voulu souligner, qui apportent quelque chose de particulier à la découverte du ministère du Seigneur en Galilée. Mais si vous prenez l'harmonie des évangiles, soit par Cor Bruns ou dans la Bible MacArthur, et vous suivez la chronologie, là, vous allez voir que beaucoup d'autres événements qui s'accomplissent. Mais nous, on va en regarder quelques-uns pour mettre notre attention sur quelques éléments seulement. Alors, ce qu'on trouve aussi, c'est finalement la guérison du fils de l'officier du roi qu'on trouve dans Jean 4, versets 46 à 54. On ne lira pas tout le passage, mais on veut remarquer que ce passage-là nous parle de deux sortes de foi. Est-ce que je peux le dire comme ça? Deux sortes de foi qu'on trouve à travers les évangiles. J'en ai déjà parlé, même au tout début, j'en ai parlé de ceux qui croient mais qui sont pas vraiment sauvés. Alors, on voit ça dans le récit de Jean d'une façon particulière. Et puis, l'événement dont on parle, la guérison du fils de l'officier du roi, ça nous met en contexte pour ces deux sortes de foi-là. Premièrement, on va lire Jean 4, 48. Jean 4, verset 48, ça dit ceci. « Jésus donc lui dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croiriez point. » Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croiriez point. Donc, la foi telle que Jésus la décrit ici, j'aurais plus dû écrire la foi telle que Jésus la dénonce ou la condamne, je sais pas. C'est cette foi qui est basée uniquement sur le fait de croire, qui est basée uniquement sur ce que je vois. Je vois des prodiges, je vois des signes. Ah, d'accord, je crois. Mais on sent un reproche là-dedans, on sent constamment que ce type de foi-là ne sauve pas. C'est juste c'est juste qu'on est impressionné par ce qu'on voit. Waouh! Intellectuellement, on n'est pas fou, donc on reconnaît qu'il se passe quelque chose de fantastique, de merveilleux. Mais bref, ça reste pas ça, c'est éphémère, c'est comme une vapeur, et puis ça part. Donc, il y a ce genre de foi-là que on est impressionné par ce qu'on voit. Mais par contre, quand on parle de la foi de l'officier du roi, et telle qu'elle est décrite dans les versets 50 et 53, c'est impossible de manquer le contraste-là. Et regardez ce que ça dit tout de suite après. Jésus, verset 50, lui dit, « Va, ton fils vit. » Et l'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Et ça va faire toute une différence aussi. Il croit la parole. Et regardez le verset 53. « Le Père donc connut que c'était à cette heure-là à laquelle Jésus lui avait dit, c'est la parole du Seigneur, ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Et la foi de l'officier, je pense qu'elle était beaucoup plus solide. Bien sûr qu'il y a eu un miracle, bien sûr qu'il s'est passé quelque chose aussi, mais c'est extraordinaire que le Jean spécifie que c'est parce qu'il a cru à la parole qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Puis même après la guérison, l'accent est encore sur, non pas ce qui venait de se passer, la guérison elle-même ou le miracle, mais ce que Jésus avait dit. C'est clair que Jean veut faire une distinction dans son évangile, et c'est pas le seul endroit, je vous le dis. Il veut faire une distinction entre croire sur la base des paroles du Seigneur et croire sur la base de ce qu'on peut voir, même si c'est opéré par le Seigneur quelque part. Ce passage-là, donc, il met vraiment en relief ces deux types de foi différentes, si je peux appeler ça une foi aussi la première, là, bon, disons, le fait de croire. Mais ça met aussi en relief, bien sûr, l'omnipotence du Seigneur Jésus, hein, qui peut guérir efficacement à 100%, même à distance. Donc, ça, c'est le Dieu omnipotent qui peut faire ça, là. Aucun homme peut faire ça, mais parce que Jésus est pleinement Dieu, il peut aussi faire ça. Et le troisième événement sur lequel on porte attention et sur lequel nous allons nous arrêter un petit peu plus longuement, bien sûr, c'est le premier rejet de Jésus à Nazareth. Et donc, vous inscrivez ça, Nazareth, juste là, sur la ligne C. Puis, c'était aussi à inscrire entre parenthèses sur la carte, si vous voulez, soit Nazareth ou synagogue, ou les deux, peut-être en abrégé. Et nous allons lire ce passage, Luc 4, versets 16 à 30. Je sais que ça va quand même nous demander un certain temps, mais je vais prendre le temps de lire ça. Luc 4, 16. Et il vint à Nazareth où il avait été élevé, il entra dans la synagogue au jour du sabbat selon sa coutume et se leva pour lire. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe. Et ayant déployé le livre, il trouva le passage où il était écrit, déployé dans le sens de dérouler, hein, parce que c'était un rouleau dans une synagogue. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. Et ayant ployé le livre ou roulé à nouveau en le refermant, et l'ayant rendu à celui qui était de service, il s'assit et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Et il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole, ou plutôt cette écriture est accomplie, vous l'entendant. » Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « Celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph? » Et il leur dit, « Assurément, vous me direz cette parabole, médecin, guéris-toi toi-même. Fais ici aussi dans ton pays toutes les choses que nous avons ouï dire qui ont été faites à Capernaüm. » Et il dit, « En vérité, je vous dis qu'aucun prophète n'est reçu dans son pays. Et en vérité, je vous dis qu'il y avait plusieurs veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, de sorte qu'il y eut une grande famine par tout le pays. Et Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, sinon à Sarepta de la Sidonie, vers une femme veuve. Et il y avait plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée le prophète, et aucun d'eux ne fut rendu net, sinon Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue en entendant ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent hors de la ville, et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, de manière à l'en précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Oui, ça commence bien. Le texte, mais c'est dans vos notes de cours, le texte d'Ésaïe 61, versets 1 et 2, et l'application qu'en fait le Seigneur démontrait aux auditeurs de la synagogue que son ministère était bien l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et je veux reprendre un petit peu verset par verset avant d'aller dans la citation de Leon Morris qui suit à la fin de la page 30 de vos notes de cours. Je veux reprendre les versets, puis vous pouvez garder vos Bibles ouvertes devant vous au verset 16 et 17. Mais peut-être avant de se lancer là-dedans, Claude Henry, est-ce que c'est le moment soit d'une pause ou de questions?
Je pense que ce serait bien de faire une petite pause. Il y a juste une question qui est arrivée.
OK.
Deux questions de Wright, qui demande de repréciser le voyage en fait de Jésus avant d'arriver en Galilée pour la deuxième fois. Si tu peux juste en quelques mots repréciser.
Le Seigneur a quitté la Judée après l'arrestation de Pierre par Hérode le tétrarque. Jean-Baptiste en Judée, et donc il est monté vers la Galilée, mais en passant par la Samarie. Ça, c'est le voyage qu'il a effectué. Il me semble que j'avais déjà calculé quand Jérusalem en ligne droite. Et Sichar, là au puits où Jésus s'est arrêté depuis Jacob, et où il a discuté avec la Samaritaine, je crois qu'il y a 50 kilomètres à vol d'oiseau, mais c'est probablement un peu plus que ça. Donc on peut parler là quand même d'un voyage là. Quoi, c'est comme combien de kilomètres on marche à l'heure en général? 5 kilomètres à l'heure?
5-6 kilomètres.
5-6 kilomètres. Bon, c'est quelques heures quand même, et puis parti probablement dans la nuit pour arriver vers midi là-bas. En plein heure du jour, en plein milieu du jour. Voilà. Et là, après la discussion avec la Samaritaine, il a poursuivi son chemin jusqu'en Galilée. Ça va?
Alors, une deuxième question. Je crois qu'on a lu... Ah oui, c'est dans ce qu'on a lu dans juste Luc 4, versets 14 et 15. Jésus s'en retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit. Et la question est, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pour qu'il soit revêtu de puissance. Est-ce qu'il y a eu un élément particulier ou non?
Non, uniquement une façon de nous dire que pour inaugurer son ministère en Galilée, on précise, et c'est comme si on nous disait, je vais le paraphraser, et un petit rappel en passant, c'est dans la puissance de l'Esprit que Jésus est allé là-bas. C'est comme pour nous rappeler que chaque étape importante du ministère de Christ, le Saint-Esprit est là. C'est lui qui avait amené Jésus dans le désert de Judée pour être tenté par le diable. C'est le Saint-Esprit qui est toujours là avec le Seigneur dans le fond. C'est pas qu'il s'est passé quelque chose de particulier. C'est simplement une façon de nous rappeler que il est dans la puissance de l'Esprit dans tout ce qu'il va faire. Est-ce que ça a du sens comme réponse, ça?
Alors, on laisse Wright nous le dire. Et entre-temps, une autre question par rapport à Ésaïe 9, où il est parlé Galilée des nations. Est-ce que ça parle bien prophétiquement de l'œuvre universelle de salut pour tous les hommes et non seulement pour les juifs? Question de Marc-Olivier.
Ben, peut-être par application. En fait, Galilée des nations est plutôt une expression qui met tellement l'accent sur les nations que c'est presque, je dirais pas exclusif des juifs là, mais c'est très 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 accentué vers les non-juifs en réalité. Il y avait beaucoup de juifs bien sûr en Galilée, mais la Galilée était aussi habitée par beaucoup de non-juifs. Voilà pourquoi on l'appelait d'ailleurs Galilée des nations. Donc, si on prend l'expression dans son propre contexte, c'était de montrer que l'Évangile allait atteindre les gens de tous les territoires de Galilée qui sont qualifiés de nations. Et dans la pensée juive, c'était bon, t'es ici, puis nous on est là. Et au contraire, prophétiquement, Dieu s'intéresse aux gens des nations et leur envoie même la lumière qui va se lever dans leur pays, qui sera mieux reçu là-bas que dans la Judée même, la Judée religieuse juive. Voilà, ça c'est le contexte immédiat. Par application, bon, ça dit peut-être et peut-être de façon plus large que dans le fond, l'Évangile va atteindre tous, peu importe la race, la nation, le peuple. Est-ce que j'avais bien compris la question, puis j'ai pas répondu n'importe quoi?
Alors, il répond oui. Et
OK.
puis, j'ai été un tout petit peu dérangé. Alors, j'ai pas tout suivi ce que tu avais répondu avant par rapport au fait que Jésus était revêtu de l'Esprit. Parce qu'il y a une deuxième question sur ce thème. Revêtu de la puissance de l'Esprit, Jésus n'était-il pas toujours rempli de l'Esprit Saint? Je crois que tu as plus ou moins répondu ou bien.
Ah oui, absolument, il l'était toujours, mais comme je l'ai dit, c'est une expression qui souligne, qui met l'accent sur le fait que tout ce qu'il va accomplir là est dans la puissance de l'Esprit.
D'accord. Alors, je n'ai pas d'autres questions, donc je propose qu'on fasse une petite pause et puis on recommence à 21h10.
Parfait, super, ça me convient très bien.
À tout à l'heure.
OK, à tout à l'heure.